En Éthiopie, certains cherchent encore visiblement à saper les efforts de paix dans le pays. Après une victoire de l'armée éthiopienne soutenue par la population, le gouvernement éthiopien a annoncé vouloir réinstaurer des liens de fraternité avec les rebelles qui ont été instrumentalisés depuis l'extérieur. Mais voilà que dernièrement, une nouvelle info est apparue sur la toile, mettant en avant une attaque de drone dans la région du Tigré, et les médias ne se donnent même plus la peine de relayer la version du gouvernement. Les organisations humanitaires ont suspendu leurs activités dans la zone de Dedebite, touchée par une attaque aérienne meurtrière contre un camp de déplacés dans la région éthiopienne en guerre du Tigré, comme l'a annoncé dimanche l'ONU. Les partenaires humanitaires ont suspendu leurs activités dans la zone en raison donc de menaces continues de frappes de drones, comme l'a déclaré le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon les informations préliminaires d'Oka, l'attaque menée vendredi vers minuit visait un camp de déplacés de la ville de Dedebite et a fait des dizaines de victimes civiles, dont des décès. Les rebelles tigréens ont évidemment saisi l'occasion pour accuser le gouvernement d'avoir mené une attaque de drones ayant tué, selon eux, 56 personnes, tandis qu'un responsable du principal hôpital de la région a fait état de 55 morts et de 126 blessés. Malgré le fait que les médias mainstream se plaignent de ne pas avoir accès à l'information car leurs journalistes sont déclarés persona non grata en Éthiopie par rapport aux nombreuses informations, fausses infos qu'ils ont relayées au monde, mais ils sont également accusés par Addis Abeba d'être les principaux porte-voix des rebelles terroristes du TPLF. Et cela ne change d'ailleurs toujours pas, car ils continuent de relayer les mêmes fausses informations sous prétexte justement d'être persona non grata. Dans un premier temps, personne n'a encore réussi à identifier ce drone. Les rebelles prétendent que c'est un coup du gouvernement et d'autres rebelles, par contre, prétendent que c'est l'Érythrée qui serait derrière cette attaque. Ce problème n'est pas aussi simple en effet. Certains ont tout intérêt à empêcher Addis Abeba de terminer la guerre et de perdurer les tentatives donc de déstabilisation du pays et de la région. L'attaque a eu lieu au moment où le gouvernement éthiopien annonçait l'amnistie de plusieurs hauts responsables du TPLF et d'autres dirigeants de l'opposition après donc un appel à la réconciliation nationale lancé à l'occasion de la célébration du Noël orthodoxe par le Premier ministre Abiy Ahmed. Les rebelles se sont repliés fin décembre dans leur fief du Tigré face à une offensive militaire des forces gouvernementales qui ont repris le contrôle d'une série de villes stratégiques. Et les soupçons se portent évidemment vers Washington. Le Bureau des Affaires africaines du Département d'État américain a qualifié ces attaques d'inacceptables, appelant sur Twitter à la fin immédiate des hostilités, au lancement rapide d'un dialogue national inclusif et un accès sans entrave de l'aide humanitaire. Des pompiers pyromanes qui encouragent le dialogue national et en même temps tentent donc de le saper. Telle est la politique africaine et moyen-orientale des États-Unis et de ses alliés. Mais plus personne ne tombe dans ces pièges grotesques. Le monde entier a vu la véritable face des Occidentaux et les pays africains sont sortis du silence et n'hésitent plus à dénoncer les politiques hypocrites de l'Occident. Au Burkina Faso, l'info se propage, une tentative de coup d'État aurait échoué. Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Mohamed Emmanuel Zongrana serait mis aux arrêts depuis hier par la gendarmerie nationale. Cette information a été relatée par le média Jeune Afrique qui précise qu'il a été arrêté pour tentative de coup d'État. Mais bon, reste à savoir. Dans la soirée du lundi, des rumeurs avaient en effet lié la coupure d'Internet à des questions sécuritaires. Mais si des sources sécuritaires, contactées par des médias locaux, ont confirmé l'arrestation du lieutenant-colonel Zongrana, elles maintiennent que la coupure d'Internet dans l'après-midi du 10 janvier est effectivement liée à des opérations militaires. En attendant la version officielle, il faut rappeler que le lieutenant-colonel Zongrana est le chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando. Il officiait également en tant que commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du Nord. Il avait aussi dirigé le 25e régiment parachutiste commando de Bobo Dioulasso. Vu le ton utilisé par les médias mainstream, il est clair qu'il continue d'être partisan des déstabilisateurs. Actuellement, beaucoup de Burkinabés savent que l'heure n'est pas vraiment à un coup d'État dans le pays. Le pays est en pleine lutte contre le terrorisme et il enregistre de bonnes avancées, contrairement à ce qui est continuellement prétendu dans les médias mainstream. Il est également important de rappeler qu'actuellement, le Burkina Faso est un verrou, tout comme le Mali d'ailleurs, qui empêche le terrorisme de se propager dans les pays de la côte du golfe de Guinée. La lutte armée continue sous toutes ses formes. Depuis 72 heures, la ville de Dori, donc, qui se trouve juste au bord de la fameuse zone des trois frontières, est en manque de carburant. La population fait le pied de grue devant les stations de service pour se ravitailler. En cette matinée donc du 11 janvier, donc de hier, sur les 5 stations-service que comptait la ville donc de Dori, une seule est approvisionnée en essence. Pour le gérant d'une station-service, cette pénurie est due à des difficultés de ravitaillement de Dori depuis Ouagadougou. Cela fait 5 à 6 jours que les citernes sont stationnées à Ouagadougou. Elles n'arrivent pas à s'approvisionner en carburant et donc nous ne savons pas pourquoi, explique un gérant. Certaines sources affirment que c'est un moyen d'assécher l'approvisionnement des terroristes. Ce serait donc une stratégie dans la lutte contre le terrorisme. Les pays du Sahel doivent être sur leur garde car visiblement les terroristes qui sont à la solde des Occidentaux veulent lancer de nouvelles offensives contre les pays du Sahel. Les opérations militaires au Mali et au Burkina Faso, contrairement aux attentes, sont sur la bonne voie malgré les pressions de la communauté internationale, qui sont donc en train de mettre en place, histoire d'instaurer encore plus de divisions au sein des pays de l'Afrique de l'Ouest, est en fait une offensive pour saper les alliances intra-africaines afin d'isoler les pays d'Afrique et de les rendre beaucoup plus vulnérables. La question sécuritaire est devenue une priorité pour les pays du Sahel, car tant que la paix ne reviendra pas, les populations seront constamment en danger. La mise en place d'un coup d'État au Burkina Faso ramènerait le pays plusieurs années en arrière. L'heure est à l'union, aussi bien militaire qu'au sein des populations. Mais cette affaire reste tout de même à suivre de très près. C'est le Mali qui va briser les instances internationales et non le contraire, suite à la décision de la CEDEAO de sanctionner le Mali de la sorte, alors qu'il doit normalement être considéré comme un pays frère. Les commanditaires de cette décision font leur apparition donc tout de suite après. La France et l'Union européenne ont évidemment apporté leur soutien aux sanctions inédites prises dimanche par les dirigeants ouest-africains contre le Mali, comme l'a déclaré ce mardi, donc, le président Emmanuel Macron, en laissant entrevoir de nouvelles sanctions européennes. Nous soutenons la position très claire et ferme prise par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui marque la condamnation profonde des dérives, comme ils le disent, du pouvoir en place que la France avait à plusieurs reprises dénoncé, comme l'a déclaré le chef de l'État français. Nous sommes totalement solidaires de la région et de la position très courageuse et claire qui a été exprimée dimanche, a-t-il insisté au cours d'une conférence de presse avec le président du Conseil européen Charles Michel à l'Élysée. De plus, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a également déclaré que c'est aux responsables donc de Bamako de prendre leurs responsabilités et de sortir du jusqu'au boutisme dans lequel ils sont, avant d'ajouter que l'Union européenne soutient les décisions et j'espère que Bamako comprendra notre détermination, a-t-il affirmé. Macron a également évoqué que les Européens donc se préparaient à renforcer à leur tour leurs sanctions. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient en discuter lors donc de leur réunion informelle prévue à Brest, dans l'ouest de la France, cette semaine. Et d'ici à la fin du mois, il y aura une réunion formelle pour que l'Union européenne et l'ensemble des pays qui la composent puissent accompagner ces décisions de sanctions, selon lui. Un autre acteur qui ne se fait plus discret, mais qui interfère beaucoup dans les affaires intérieures du Mali, ce sont les États-Unis. Après avoir exclu l'Éthiopie, la Guinée et le Mali de l'AGOA, ils ont salué les mesures vigoureuses imposant des sanctions supplémentaires au Mali. Nous partageons la profonde déception de la CEDEAO face au manque d'action ou de progrès du gouvernement de transition du Mali dans l'organisation d'élections comme il s'était engagé à le faire après le coup d'État d'août 2020. Nous soutenons la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions économiques et financières supplémentaires pour inciter le gouvernement de transition à tenir son engagement envers le peuple malien de ramener son pays vers la démocratie, comme il l'affirme. La France, les États-Unis et l'Union européenne ont totalement donc l'air de faire partie de la CEDEAO. Ce qui est un fait assez nouveau. Bref, les Occidentaux sont vraiment en colère et n'arrêtent pas de lancer des menaces à tout va contre le Mali, et surtout contre le peuple malien, car c'est lui qui est particulièrement visé maintenant, donc pour son soutien au gouvernement malien et sa détermination à faire fuir les militaires occidentaux du territoire malien. La France, l'Allemagne, l'Irlande retirent déjà leurs éléments du Mali, car ils n'ont pas vraiment eu le choix face au peuple malien. De plus, le Mali est en train d'enregistrer des avancées assez spectaculaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, des avancées que la France et ses alliés n'ont certes jamais enregistrées en presque 10 ans d'occupation du pays et que la CEDEAO aurait peut-être dû prendre en compte. Selon le dernier communiqué de l'état-major des armées du Mali, ces derniers jours, les FAMA ont procédé à plusieurs opérations qui ont été un franc succès. Le 8 janvier 2022, une base terroriste dans la zone de Sama, au nord-est de la localité de Sofara, a été détruite par une frappe aérienne des FAMA ayant permis de neutraliser 26 terroristes. Le 9 janvier, donc, lors des opérations de reconnaissance offensive dans les secteurs susceptibles d'abriter les groupes armés terroristes dans la localité de Zantigila à Kabale et plusieurs autres petits villages dont la commune donc de Dandereso, région de Sikasso, les FAMA ont procédé au pilonnage de la colline de Kabale et à la destruction d'une base logistique du secteur. Au cours de cette opération, 2 suspects ont également été interpellés et mis à la disposition de la prévôté. Le 10 janvier au matin, l'armée malienne a effectué des frappes aériennes sur un checkpoint ayant causé la neutralisation de 5 terroristes. Voilà les avancées de ces derniers jours concernant la lutte contre le terrorisme. Et la question qui se pose donc beaucoup de Maliens, c'est où se trouve la CEDEAO dans ces avancées? Où se trouvait la CEDEAO ces dernières années quand le pays était quasiment aux mains des terroristes? Où se trouve la CEDEAO lorsque les civils se font massacrer? Et surtout, il est tout de même hypocrite de parler seulement des élections et de la démocratie lorsque le pays est en guerre contre le terrorisme. C'est hors de propos. Les avancées de l'armée nationale ne sont visiblement pas prises en compte. Le fait que le Mali choisit ses partenaires encore moins et l'avis du peuple malien qui apporte continuellement son soutien au gouvernement malien et demande justement eux-mêmes la prolongation de la transition, car les Maliens veulent avant tout la sécurité et la paix avant de mettre en place la fameuse démocratie où les élections à l'occidentale n'est absolument pas pris en compte. De plus, comme Zoom Afrique l'a évoqué hier, il est clair que les sanctions vont également toucher les intérêts économiques des pays voisins. Nous avons évoqué le cas du Sénégal et de la Mauritanie, mais la Côte d'Ivoire est également dans le collimateur. Selon donc un trader qui a dit donc que je pense que le coton va être sorti des sanctions car la plus grande part est chargée d'Abidjan et de San Pedro et j'imagine mal la Côte d'Ivoire se passer de cette manne, souligne donc le trader. Et il y a près de 300 000 tonnes à exporter, affirme-t-il. Ce sont des pertes énormes et il est tout de même bizarre qu'une instance comme la CEDEAO n'ait pas pensé à ce genre de choses. En bref, le fait de suivre aveuglément les diktats imposés par des tierces occidentaux cause toujours beaucoup plus de pertes que de bénéfices. Les Européens qui passent leur temps à suivre ce que leur impose Washington s'en mordent continuellement les doigts. Mais le fait que le Mali garde dur comme fer sa position commence à créer des divisions au sein des instances internationales. Ce coût économique, donc, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, va clairement créer donc des divisions au sein de la CEDEAO. De plus, même au Conseil de sécurité donc de l'ONU, les divisions apparaissent concernant le Mali. Le Mali peut alors et beaucoup plus librement nouer des partenariats avec les puissances qu'il choisit et non plus avec ceux qu'on lui impose. La CEDEAO fait encore une fois une grave erreur en ne prenant pas une décision africaine. C'est elle qui le payera. Pour sa première visite d'État en tant que président du Cap-Vert, José María Neves a choisi l'Angola pour, dit-il, rendre hommage à un pays ami
qui s'est toujours tenue aux côtés de Praia. Selon le chef de l'État capverdien, l'Angola est un partenaire qui a apporté une grande contribution au développement de son pays, tant au niveau économique que commercial. Cette visite officielle intervient après l'élection de José María Neves en novembre dernier. Nous voulons dire combien nous sommes reconnaissants de la manière dont l'Angola s'est positionnée dans la région de l'Afrique australe et centrale et au niveau africain. Nous comptons sur l'Angola avec son énorme contribution à la construction d'une Afrique unie et forte, une Afrique plus moderne, plus juste, plus inclusive et avec plus d'opportunités pour toutes ses filles et tous ses fils. Le président angolais s'est également dit satisfait des voies ouvertes à la coopération dans de nombreux domaines entre les deux pays. Notre ambition en termes d'aviation civile n'est pas seulement de relier les deux capitales, mais à partir d'une des capitales, c'est-à-dire de Praia, d'aller au-delà et de toucher les pays de la région, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et les États-Unis. Notre compagnie a des ressources aériennes qui sont inutilisées. Les avions ne sont pas faits pour rester au sol, ils sont faits pour bouger. Leur place est là-haut, a-t-il dit. Cette coopération devrait notamment porter sur le transport aérien et maritime, l'aéronautique civile, l'hôtellerie et le tourisme, l'enseignement donc supérieur, la technologie et également l'innovation. Au Togo, en 2021, 13 770 nouvelles entreprises ont été créées d'après les données du Centre de formalité des entreprises. Un nouveau record lorsque cette donnée est rapportée aux 12 500 entreprises dénombrées en 2020, traduisant également une tendance haussière de 9% en une année. Précisément, au premier trimestre, 4 087 entreprises ont été créées contre 3 224 au deuxième, 3 495 au troisième et 2 964 au quatrième. Durant l'année, le mois de janvier a été plus prolifique avec la création de 1390 structures d'affaires, alors qu'en décembre 2021, seulement 817 sociétés ont été inscrites, soit le plus petit nombre enregistré. Autre détail, sur les 13 770 établissements, 11 629 sont portés par les Togolais contre 9 701 en 2020 pour une hausse de 16%. Alors que la part des Togolais a maintenu le cap de la croissance, celle des étrangers a décru de près de 24%, passant de 2831 en 2020 à 2141 en 2021. Autre fait remarquable, les statistiques du CFE révèlent que 3793 femmes sont porteuses d'initiatives de création de sociétés en 2021. Une année plus tôt, donc elles n'ont formalisé que 3426 entités. Les données des deux années relèvent une progression de 10%. Cette nouvelle croissance enregistrée dans un contexte de crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19 peut être attribuée aux différentes réformes opérées notamment par les autorités togolaises pour améliorer le climat des affaires. Il s'agit principalement de la réduction du délai et du coût de création d'entreprises ainsi que de la digitalisation des procédures de formalisation. Arrivé au Cameroun à Yaoundé pour assister à l'ouverture de la 33e CAN Total Energy 2021, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a salué la bonne organisation de la compétition au cours d'un entretien au Palais de l'Unité avec son homologue camerounais. « Je garde le souvenir d'une organisation parfaite de la compétition. J'ai été très séduit par cette organisation. Nous avons démontré que l'Afrique peut, surtout le Cameroun, un pays qui a beaucoup d'expérience. Un message très important a été adressé aux détracteurs qui ne voulaient pas que l'événement se fasse ici. À sa sortie d'audience du palais donc de l'Unité, où il a été reçu pendant près d'une heure par son homologue camerounais Paul Biya, le président de l'Union des Comores n'a pas tari d'éloges sur la compétition qui se déroule en terre camerounaise depuis dimanche dernier. Et c'est un spectateur averti ayant assisté aux premières loges, à la magnifique parade et au début de la compétition dimanche dernier que le chef de l'État comorien s'exprimait. Arrivé au Cameroun samedi dernier pour assister à l'ouverture de la 33e CAN, donc le président Assoumani donc était aux côtés de son frère, le président Paul Biya, au stade d'Olembe, qui a abrité l'ouverture de la compétition. On pouvait donc comprendre la place occupée par le sport lors de l'audience au palais donc de l'Unité. Mais il n'y avait pas que le sport, passion que partagent les deux chefs d'État au menu des échanges. Nous avons parlé sport, mais également des relations bilatérales entre les deux pays, a fait savoir le président comorien. Comme son homologue camerounais, le président Assoumani partage l'idée d'une Afrique qui mutualise ses efforts dans son ambition de développement. Ceci permet, de son point de vue, donc de faire face aux divers défis auxquels le continent est confronté. Vous voyez par exemple, le Covid-19 est venu nous apprendre que nous devons évoluer ensemble pour se gérer. Nous sommes un continent qui a beaucoup d'avenir et de potentialités. Nous avons besoin de partenariats, mais il faut que nous assumions d'abord nos responsabilités. Des sujets qu'il a discuté avec le président de la République camerounaise. Et en bonne place également, la coopération bilatérale. Les Comores bénéficient en effet de l'expertise camerounaise en matière de formation des cadres. Dans son échange avec la presse sur le perron du Palais de l'Unité, c'est par le sport que le président de l'Union des Comores a conclu donc les échanges en disant une fois encore sa satisfaction d'avoir été présent à l'ouverture de la 33e CAN. Les broyages de cacao en Côte d'Ivoire continuent d'augmenter. Sur le seul mois de décembre, les volumes ont progressé de 2% à 52 000 tonnes selon l'association des exportateurs GEPEX. Depuis le démarrage de la campagne 2021-2022, soit début octobre, les broyages ont totalisé 159 000 tonnes à fin décembre contre 151 000 tonnes sur la même période la campagne dernière. Rappelons que la capacité totale installée dans le pays est de 712 000 tonnes, la Côte d'Ivoire rivalisant avec les Pays-Bas pour le premier rang mondial des transformateurs.